pour désirer, je désire ce que je n'ai pas, pas ce que je possède. Ce que je possède et ce que j'ai, je ne le désire plus, je l'ai. Donc, il y a, dans le « nous », il y a un mouvement paradoxal entre une force fusionnelle et une force d'opposition. Je t'aime, je nous aime, mais j'existe aussi en dehors de toi, en dehors de nous. Et j'ai droit aussi à ma vie privée, okay, qui est à l'opposé de nous. Là. Okay. En tout couple existe ce paradoxe-là. Et seulement les couples qui réussissent à gérer le paradoxe, à utiliser le paradoxe, vont survivre à la deuxième étape de l'évolution du couple, qui est la lutte pour le pouvoir. Et fondamentalement, même si notre ami Jung a dit que là où il y a de l'amour, il n'y a pas de pouvoir, et là où il y a du pouvoir, il n'y a pas d'amour, à mon avis, c'est faux. Dans toute relation amoureuse, il y a une lutte pour le pouvoir, ne serait-ce qu'entre le désir de fusion de l'un et le désir de l'autonomie de l'autre. Il n'y aurait aucun problème si les deux personnes avaient le même désir de fusion. Okay? On fusionne, on se satisfait, on a mangé tous les deux, la même quantité de nourriture, on n'a plus faim, on se sépare, on laisse au désir le temps de revenir et on fusionne à nouveau. Ce serait parfait. Mais dans la réalité, il y a un des deux partenaires qui a un besoin de fusion beaucoup plus grand ou plus grand que l'autre qui a un désir d'autonomie plus grand. Et là, ça crée une lutte pour le pouvoir. C'est-à-dire que moi, au moment où je voudrais fusionner, toi qui n'as plus faim de fusion, qu'est-ce que tu fais? Tu veux t'éloigner. Si tu t'éloignes, à ce moment-là, moi, mon angoisse ou ma peur de ne plus être capable de satisfaire mon désir de fusion augmente. Et à ce moment-là, je te poursuis. Mais plus je te poursuis, toi, tu n'as plus le goût, là. Tu n'as plus de désir, donc tu veux t'éloigner pour permettre au désir de revenir. Donc, plus je te poursuis, plus tu me fuis. Mais plus je te fuis, plus je provoque chez toi une peur, une augmentation de ton désir qui fait que plus je te fuis, plus tu me poursuis. C'est permanent. Et dans les couples heureux, cette lutte-là, elle est égale. Dans les couples malheureux, bien évidemment, on se retrouve avec un dépendant émotif et un contre-dépendant, qu'on appelle souvent le dominant. Okay? Les deux sont aussi malheureux. C'est pas plus agréable d'être dans cette position-là que dans cette position-là. Donc, deuxième étape, apprendre à gérer la lutte pour le pouvoir. 80% des couples n'y parviennent pas. 50% divorcent, se remarient après un certain temps de deuil et augmentent de 10% leur probabilité d'une deuxième séparation. Les statistiques sont à ce niveau-là. Excusez. Oups. Il va finir par arrêter. Excusez. C'est peut-être ma blonde là, qui m'appelle du Québec. Quand est-ce que tu arrives? Demain soir. Alors, à peine 20% des couples réussissent à arriver à la troisième étape de l'évolution d'un couple, qui est le partage du pouvoir. Ou du moins, l'alternance du pouvoir. Et Jacques Salomé, qui est un de vos concitoyens, montre bien comment est-ce qu'on pourrait alterner le pouvoir. Par exemple, les jours pairs, c'est papa qui s'occupe des enfants. Les jours impairs, c'est maman qui est le boss et qui s'occupe des enfants. Et papa se met au service de maman pour éduquer les enfants comme elle le veut. Et inversement. On ne peut pas arriver à un partage du pouvoir équilibré. C'est impossible. La vie n'est pas la stagnation. La vie, c'est le mouvement. Mais il faut apprendre à gérer ce pouvoir-là de façon à l'alterner et que chacun des deux membres du couple trouve dans le « nous » la source de la satisfaction de ses besoins personnels qui, vous le savez, entre un homme et une femme, la hiérarchie des besoins n'est pas dans le même ordre. Dans la lutte pour le pouvoir, moi, dire à toi comment « nous » devrait fonctionner. Toi, t'opposer à moi et de dire « non, nous devrait fonctionner autrement ».